on veut rendre grâce ensemble. Père Céleste, merci d'avoir créé le monde par la parole de ton Fils, ton bien-aimé. Merci de nous avoir adressé cette parole, chacun pour notre part. Merci de pouvoir l'adresser à tout homme, toute femme, sur toute la surface de la terre. Merci pour la force, la profondeur, la puissance de ta parole. Merci d'environner notre vie, pas seulement de chants de délivrance, mais aussi de ta parole. Aide-nous à trouver ce bonheur de contempler, de vivre, de proclamer la parole de Dieu. Amen. On a démarré il y a quelques semaines, 3 mois, un thème, bon, voilà, qui me tient toujours à cœur. C'est un petit peu celui de combat spirituel dans la prière. Alors j'ai emprunté une voix qui est un petit peu différente de d'habitude. Combat dans la prière, on voit tout de suite, voilà, des prières. Pour moi, c'est une attitude. C'est comment je suis en Christ. Parce que si je suis en Christ, l'Esprit Saint peut me réveiller en temps utile et me faire entrer dans les combats de Dieu. Il n'y a rien de plus dangereux que de partir en croisade, en combat spirituel, tout seul. Parce qu'on est chrétien, parce qu'on a lu des choses, il y a un peu plus de 20 ans dans ma bibliothèque, j'ai tous les livres qui sont sortis sur le combat spirituel. Quand je fais le bilan aujourd'hui, je dis, est-ce que ça m'a été utile? Je ne sais pas. Par contre, ce qui est utile, toujours, c'est d'être en Christ. Je crois que c'était vendredi soir, il devait être 11h15, j'ai été me coucher. Et puis à peine au lit, un texte m'est venu pour quelqu'un et le Seigneur m'a dit, tu redescends, tu prends ton téléphone et puis tu vas photographier telle prière. Je fais toujours référence à ce petit livret de prière, Lumière sur mon sentier. 365 jours de prière, uniquement des paroles de l'Écriture. Le Seigneur m'a dit, voilà, tu vas photographier une certaine page de ce livre, j'ai cherché quelque chose en rapport avec le thème que j'avais, puis tu vas l'envoyer à cette personne. Voilà. Avoir cette capacité d'écoute, et puis voilà, Seigneur, je vais obéir à ce que tu me donnes, à ce que tu me dis, et puis je vais me recoucher tranquille. Le lendemain matin, quand je me suis levé, bon, j'ai pris mon petit déjeuner, puis après j'ai réouvert mon portable, et là j'avais un message de la personne à qui j'avais envoyé ce message qui disait waouh, voilà, ça tombe pile poil dans ce que je vis en ce moment. C'est une parole, moi, qui m'avait touché là, dans les années. Alors, ce petit livret, Lumière sur mon sentier, m'a servi pendant une quinzaine d'années de livre de bord dans ma prière personnelle. Et puis j'avais marqué 77 en haut et 82 et 83. C'est les années où le texte de ce jour-là m'avait touché. Comment est-ce que la parole de Dieu, la parole de Christ, comment est-ce que d'être en Christ, c'est du combat spirituel, c'est prendre position. Un petit peu comme Jean-Marc, c'est vrai que je voulais voilà, vous remercier l'Église, c'est vrai, pour la profondeur, la puissance des temps que nous passons ensemble, que ce soit par le chant, que ce soit par la prière. C'est peut-être un peu unique. À Kevin, on aime, dans cette église, prendre du temps que chacun puisse s'exprimer dans la prière, profondément, puissamment, sincèrement, réellement. Et depuis des années, voilà, c'est extraordinaire de voir cette richesse. Et puis l'avancée de Christ et de l'Esprit dans nos cœurs, dans nos vies, c'est une richesse de l'Église. On avait commencé à voir il y a quelques semaines Dieu dans le ciel, l'Éternel des armées, Christ à sa droite. Et puis, que ce soit dans le livre d'Ézéchiel ou dans l'Apocalypse, il nous est parlé de ces êtres vivants qui ont quatre faces. Une face de lion, une face d'homme, une face de bœuf et une face d'aigle. Voilà, j'aimerais continuer, reprendre, juste vous rappeler un petit peu la face de lion. Tout cela nous révèle le caractère de Christ. Christ est lion, bœuf, on verra ce dont il s'agit, homme et en même temps aigle. Et cette nature, ces qualités qui sont en Christ peuvent aussi venir en nous. Et je redécouvre à l'occasion de ce travail toute cette richesse autour de ces visions qu'ont reçues des hommes il y a très très longtemps. Ézéchiel, ça fait 2700, 2800 ans qu'il a reçu ses visions. Jean, dans l'Apocalypse, ça fait déjà 2000 ans. Et pour moi, ces textes sont toujours actuels parce que Dieu n'a pas changé. Et ces êtres vivants qui portent le trône de Dieu, qui représentent la création, ils sont toujours là. Et Christ les contemple, les voit aussi, tous les jours. Et comment est-ce possible que de toute éternité, en Dieu, il y ait ces expressions de Dieu, lion, bœuf, homme et aigle. On a vu que lion, voilà, on le retrouve dès la Genèse, la tribu de Juda est la tribu d'un lion, comme un jeune lion. Juda est celle qui, par la louange, entrait pas seulement dans le combat spirituel, dans le combat terrestre, pour diriger les armées d'Israël, c'était la tribu qui était toujours en premier. Au travers de la louange, aucun combat terrestre sans combat céleste, combat spirituel dans la louange. Juda, ça veut dire louer Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses sur le roi lion. Hein. C'est des dessins animés de Walt Disney. Mes filles ont vu ça étant tout petites. Il paraît que ma petite fille, Julie, elle a découvert les CD, les musiques de ce roi lion. Et tous les jours, maintenant, en ce moment, elle chante ses chansons de Walt Disney, du roi lion. Qu'en est-il de ce caractère de Christ? Et comment est-ce qu'il peut devenir le nôtre? Comment est-ce que je peux être fort, puissant dans la louange? Jamais sans la louange. Aucun combat spirituel. N'entrez jamais dans un combat spirituel sans être dans la louange et l'adoration. Pour pouvoir discerner quels sont les pièges de l'ennemi, les pièges du diable. On a vu le psaume 2, le psaume 110, qui sont des psaumes messianiques. Élisée était Élisée, ces prophètes étaient aussi des types de prophètes un peu lions, avec du caractère, avec des actes extraordinaires. On a vu qu'il y a les images dans l'écriture, il y a souvent une ambivalence et un paradoxe. Dans l'Apocalypse, il est dit que celui qui a l'autorité pour ouvrir les seaux du rouleau, c'est le lion de la tribu de Juda. Et il nous a dit, et je vis au milieu du trône comme un agneau immolé. C'est un binôme. Un jour, cette force, cette puissance du lion seront moins nécessaires. Quand Jésus va revenir, il va réconcilier celui qui mange et celui qui est mangé. Comment la force et la faiblesse peuvent cohabiter en Dieu. Un jour, il a dit, le loup, la panthère, l'agneau, le serpent, tous les animaux qui sont prédateurs vivront en bonne intelligence avec tous les autres animaux. Vous pourrez aller dans la réserve du Serengeti, au Kenya, vous promener parmi les lions quand Jésus reviendra. pourrait être sympa. Beaucoup de binômes vont comme ça dans l'écriture et je trouvais voilà celui-là intéressant. J'aimerais voir avec vous maintenant la figure du bœuf. Et au travers de cela, eh bien, on va voir qu'est-ce que c'est que l'attitude, la nature, le caractère du serviteur. Le bœuf est l'image du serviteur. On prend un texte dans Ésaïe, au chapitre 42. Le bœuf, c'est celui qui travaille, celui qui prépare le sol, qui prépare le labour. Souvent, là aussi, les bœufs étaient en binôme. Hein. Jean-Marc aime bien amener des jougs de bœuf. Si on veut les faire travailler ensemble, on en met deux. Et puis, ils tirent toutes sortes d'instruments pour l'agriculture efficace, fiable, docile, obéissant. J'ai entendu ce matin dans la prière, hein, Seigneur, que je sois plus obéissant. On n'a jamais vu un bœuf faire grève. Non, pas encore. Revendication, bah, c'est d'être bien traité, d'avoir de la foi, de la nourriture quotidiennement, être à l'abri. Je dis ça parce que l'esprit français est quand même assez particulier. Les Français ont le plus mauvais indice de satisfaction de l'Europe. Il ne semble pas qu'on ait les plus malheureux. Je vous relis, hein. Efficace, fiable, docile, obéissant, capable de travailler avec un joug, de travailler la terre, de regarder droit devant lui, arriver au bout, il fait demi-tour et puis il reprend son sillon. Sans la force de cet animal, on ne sera pas aussi nombreux sur la terre. Jusqu'à moteur à explosion, pendant des millénaires, c'est cet animal qui a tracé des sillons, qui a permis de semer les céréales, toutes les... On lit Ésaïe 42, les versets 1 à 7. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne la fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé. Il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera pas, ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux, qui les a déployés, qui a étendu la terre, ses productions, qui donne la respiration à ceux qui le peuplent, le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, faire sortir de prison les captifs de leur cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres. Le Christ Jésus est le serviteur parfait. 24 heures sur 24, à la droite du Père, il n'y a pas de coupure d'électricité. Il n'y a pas de grève, de revendication, de cessation de service. Là, on a toutes les catégories de vie des sociétés humaines, hein, où on peut réfléchir à tout ce qui dysfonctionne En Dieu, Christ ne dysfonctionne jamais. Il est le serviteur fidèle. Il y a un petit livret comme ça, le petit livret Burke, qui s'appelle « Le serviteur fidèle ». Dans les cours de pastoral, il y avait aussi cette image simplement de la bougie. On la pose dans un coin, on l'allume. Une lumière qui est fidèle, qui fait ce qu'on lui dit. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Si nous laissons cette mentalité, ce caractère de Christ et de service descendre dans nos vies, il y a quelque chose qui fait plaisir à Dieu. Être serviteur, être au service les uns des autres, ça fait plaisir à Dieu. On parlait cette semaine avec, on a mangé avec Elisabeth, la fille de Jean-Marc qui est là-bas au fond, et on parlait dans l'église, voilà, est-ce qu'on est acteur ou consommateur? Est-ce que l'église est un produit de consommation? Je peux venir le dimanche matin et puis récupérer la bénédiction de Dieu, puis le restant de la semaine, non? En espérant que venir à l'église le dimanche matin, ça m'apporte la bénédiction. Mais est-ce que dans ma relation à Christ, je peux le considérer aussi avec cette image de service comme le bœuf? Je le répète, hein. Efficace, fiable, docile, obéissant. Même Jésus, fils de Dieu, a appris l'obéissance. C'est ce qu'il vous a dit dans l'Épître aux Hébreux. Jésus-Christ, bien que fils, a appris l'obéissance. Vous vous rappelez de la suite du verset? Par les choses qu'il a souffertes. Alors peut-être que d'avoir cette mentalité du bœuf, il y a peut-être des moments désagréables, je ne sais pas, des temps de souffrance. Je continue à lire dans ce même livre d'Ésaïe, au chapitre 49, les 6 premiers versets. Il, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide, le néant, que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance, pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob, pour ramener les restes d'Israël, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Chapitre 49 d'Ésaïe, un chapitre extraordinaire. Si vous avez du temps aujourd'hui à perdre, vous asseoir et relire ce passage, il y a le verset 8 qui est extraordinaire. Dieu a appelé Israël, et au milieu d'Israël, il a placé son fils. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il a fait de moi une flèche aiguë. Là, on est dans le combat spirituel. On est dans la prise de position. On est dans le fait de recevoir une mission, un appel de la part de Dieu. Il y a un mois et demi, deux mois, on a reçu un couple. Il a un appel pour être aumônier militaire. On les a accompagnés, on a travaillé avec eux. Pendant un temps, un travail qui n'est jamais fini, qui est toujours en cours dans chacune de nos vies. Il m'a dit, tu es mon serviteur en qui je me glorifierai. Il y a quelque chose dans notre relation avec Dieu, si on accepte d'être au service de Dieu, il y a quelque chose du sceau de Dieu qui se place sur nos vies. Et il y a quelque chose qui est glorifié en Christ. Christ peut présenter à son Père, voilà tout ce que tu m'as donné, qui sont comme des veaux, comme des bœufs. Le bœuf n'a pas toujours une image extraordinaire. Mais pour moi, c'est un animal noble. Aujourd'hui encore, je crois que dans les rizières, en Inde, en Asie, il est encore utilisé. Tout le monde n'est pas mécanisé. Et puis on voit ces deux animaux avec ces sacs de charrue en bois, et puis qui tracent des sillons, et puis les gens qui repiquent le riz derrière. C'est une belle image. On poursuit avec le chapitre 52. C'est dans ces parages d'Ésaïe qu'ont lieu tous ces très beaux textes sur le serviteur. Ésaïe 52, 13 à 15. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. De toute éternité, quand Dieu regardait ces êtres vivants, il voyait cette face de lion, cette face de bœuf, et il savait déjà en lui-même qu'un jour il enverrait son fils pour l'élever, mais aussi pour l'envoyer jusque sur la croix. Il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Condamné comme un vulgaire brigand, voleur. Cloué sur la croix. Dans chaque portion de l'Écriture, on a ce binôme, ce Christ en gloire, élevé dans les lieux très hauts. Et puis souvent en même temps, on se dit, oui, mais pour avoir ce statut de prospérité, d'élévation, il y a un moment où il y a quand même une coupure d'électricité. Sur la croix, le Père a éteint la lumière, pas le Fils. Tout d'un coup, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? La croix était un moment terrible. Un moment terrible d'abandon, coupure de lumière, coupure d'une relation avec le Père. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est tout cela qui ont toujours été dans le cœur de Dieu. Et même quand il a créé ces êtres vivants qui gardent la création, qui supportent son trône, au travers de ces images, ces choses-là sont dans le cœur de Dieu. On poursuit au chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il était brisé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est peut-être pas toujours facile d'accepter l'appel au service. Il y a aussi des souffrances. Il y a aussi des choses à porter. Il y a des situations à résoudre. En même temps, ça donne un sens à la vie. Ça donne de la gravité, de la profondeur, de l'amplitude, de l'épanouissement à la vie. Il était question d'épanouissement ce matin au travers de l'écriture. Belle parole qui disait, voilà, reviens, viens. Viens à l'écriture, imprègne-toi de ma parole. Et tu verras que ta vie pourra être changée. J'aimerais lire avec vous dans l'évangile de Jean, au chapitre 13. Jésus a été serviteur juste avant d'être sur la croix. Jean 13, de pendant le souper, alors que le diable l'avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds des disciples, à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre. Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais les mains, la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Vous êtes purs, mais non pas tous. Vous m'appelez maître et seigneur, vous dites bien, je le suis. Si je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. » Je veux dire, dans l'Église, il n'y a pas de place pour l'esprit de domination. Il n'y a de la place que pour l'esprit de service. Est-ce que j'accepte que Jésus me lave les pieds? Ou est-ce que je dis, mais non, Seigneur, c'est pas ton boulot, c'est pas ton job, c'est celui de mon pasteur, c'est celui de l'ancien, c'est celui de l'équipe pastorale, c'est celui de mon frère, ma sœur. Ben c'est vrai qu'on peut le faire entre nous. Mais le premier qui veut nous servir, nous sanctifier, nous amener plus loin, c'est le Seigneur lui-même. Il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Aucun des grands de ce monde n'est capable de faire un geste comme ça. Est-ce que vous voyez Macron, Poutine, Xi Jinping aller dans un hôpital et puis ou aller quelque part et puis se mettre à servir les plus faibles, ceux qui sont le plus dans le besoin. J'aimerais terminer en lisant dans Philippiens, chapitre 2, verset 5. C'est des textes connus, hein, mais ça rappelle. Comme ça, il y a des textes qu'on ne peut plus lire de la même manière. Quand je lis ce texte, maintenant, les quatre êtres vivants, chacun avait un visage. Voilà. De ces quatre visages, je me dis, oh, quelle richesse simplement dans cette image. Philippiens 2, 5. Ayez-vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Christ a été l'animal, le bœuf qu'on amène à l'abattoir. L'agneau, hein, puisque c'est l'image, mais voilà aussi, cet animal de service, cet animal de labour, qui est capable de travailler en binôme, avec un joug, qui a rendu service à l'agriculture pendant des millénaires. Je ne sais pas comment les hommes ont fait pour faire que cet animal devienne docile, fiable, efficace. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Devenant semblable aux hommes comme un vrai homme. On continuera de parler de cet homme, puisque c'est une des figures de ces êtres vivants extraordinaires, une face de lion, une face de bœuf, une face d'homme et une face d'aigle. On verra la suite au prochain numéro. On va prier ensemble. Père Céleste, merci d'avoir placé ces images dans ta parole. Merci de ce que les prophètes ont vu ces choses et nous les racontent. Merci de nous aider à en tirer les leçons, l'apprentissage dont nous avons besoin. Merci Seigneur d'avoir ce caractère, cette nature du lion. En même temps aussi avoir cette nature de service, du veau, du bœuf. Animal fiable, docile, efficace. Merci de nous aider à intégrer, à accepter cette image, cette nature, ce caractère qui est en toi. Sois béni, voilà, de nous envoyer, de nous parler par cette parole vivante. Amen.